Jacques Maritain et du cardinal Journet, qui sont deux figures qui sont connues dans certains milieux intellectuels, mais assez peu connues du grand public. Jacques Maritain est né en 1882 à Paris, dans un milieu athée convaincu. Son enfance n'a pas été bercée par des vies de saints, mais par la vie de son grand-père, Jules Favre, un grand homme politique de la fin du XIXe siècle, le grand précurseur et promoteur de la laïcité et de la libre pensée. Jacques est un esprit rebelle et indépendant, d'une grande intelligence et d'une vive sensibilité. Baignant dans un milieu intellectuel où la question de Dieu avait été exclue depuis longtemps, il est pétri dans son adolescence par la pensée positiviste qui considérait la science comme l'unique source de connaissances valables. Et cependant, Dieu travaillait son cœur de manière admirable. En effet, malgré l'influence de ses fréquentations et de l'héritage familial, Jacques ne pouvait se résigner à penser que la vérité se réduise aux dernières découvertes scientifiques. S'affermissait en lui ce désir très profond, qui deviendra même très violent, d'une vérité sans défaut qui puisse justifier son existence. Sur les bancs de la Sorbonne, et la Sorbonne, c'est, vous allez voir, c'est une jolie coïncidence, mais la Sorbonne a été aussi l'université de Saint-Thomas d'Aquin. Sur les bancs de la Sorbonne, où il suit des cours de philosophie, il rencontre Raïssa Oumansoff, qui est une jeune réfugiée juive, elle aussi très insatisfaite de la vision absurde du monde à laquelle conduisait la philosophie rationaliste et matérialiste, alors très en vogue. Jacques écrira de ses professeurs d'antan. Nos maîtres désespérés de la vérité, dont le nom même leur déplaisait et ne devait être prononcé qu'avec les guillemets d'un sourire désabusé. À cette époque, Jacques et Raïssa firent le serment de mettre fin à leur jour s'ils ne trouvaient cette vérité qu'ils aimaient tant, et ceci de manière incroyable, sans en avoir jamais entendu parler, et en baignant dans une philosophie sceptique, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas de vérité. Le poète Charles Péguy, le grand philosophe Henri Bergson, ouvrirent en leurs esprits certaines perspectives qui les apaisèrent quelque peu. Cependant, c'est l'écrivain Léon Blois qui les toucha au cœur. Léon Blois est un écrivain de cette période qui s'est converti de manière radicale et qui prêchait ceci, à savoir que la sainteté seule justifie l'existence. L'homme, pour lui et pour nous, ne devait se contenter d'une vie médiocre et de vérités précaires, mais il pouvait aspirer à vivre saintement dans la vérité parfaite et définitive. Cette vérité a un nom, c'est Jésus. Les cœurs de Jacques et Raïssa se laissèrent toucher peu à peu et interpellés par la beauté de la foi. Et puis, conscients d'avoir trouvé en Jésus celui qu'ils recherchaient avec tant de fougue, ils reçurent le baptême dans une grande paix le 11 juin 1906 à Montmartre, il me semble dans la crypte de Montmartre, à l'endroit même où les jésuites sont partis. Autre coïncidence. Jacques Maritain pensa alors en finir avec la philosophie, qui ne lui avait rien apporté jusqu'alors, sinon des idées tordues, pour se consacrer à l'étude de la vie des saints. Et cependant, la découverte de la vie et de la philosophie du grand saint Thomas d'Aquin changea ses plans. Ce docteur de l'Église, en son temps, n'avait pas méprisé la philosophie, mais lui avait au contraire donné une grande dignité en la proposant comme un moyen de mieux aimer la vérité. La doctrine du docteur Angélique fut donc pour lui comme une seconde illumination, une seconde conversion. Il découvrit alors que l'intelligence peut se mettre au service du cœur. Désirant connaître et faire connaître celui que son cœur aimait, Jacques devint un grand professeur estimé, écrivant de nombreux ouvrages qui connurent rapidement une grande notoriété et influence sur la jeunesse de l'entre-deux-guerres. Les papes successifs, de Pie XI à Paul VI, lui donnèrent leur confiance et le chargèrent de missions délicates pour défendre et promouvoir la doctrine sociale de l'Église. Maritain sacrifia ainsi des amitiés, avec courage et un certain avancement dans sa carrière, pour la défense de la vérité. Ainsi, par exemple, quand Pie XI condamne l'action française, ça fait un énorme tollé dans l'Église de France à l'époque, beaucoup d'intellectuels se rebellent contre le pape. Jacques Maritain, lui qui a des amitiés avec certains intellectuels de l'action française, prend la défense du pape et écrit un livre, La primauté du spirituel, qui cherche à expliquer la position du pape. À cette époque, la foi était aujourd'hui encore, mais la foi était durement méprisée dans certains milieux intellectuels et qu'on pourrait qualifier de très laïciste. Et Jacques faisait fi des critiques et moqueries à son égard. Ce qui touchait en lui, c'était sa profonde douceur et son amour puisé dans des longues heures de prière. Il arrivait ainsi à faire fondre des cœurs endurcis et des esprits réfractaires qui le critiquaient. Ainsi, il ramena à la foi un grand nombre d'intellectuels et d'artistes célèbres. Je ne sais pas si ça dira quelque chose, mais Jean Cocteau, Julien Green, Éric Satie, Ernest Psychary, Charles Péguy et d'autres encore sont des fruits et sont des conversions dues à Jacques Maritain. Un jour, une petite anecdote, un jour Jacques Maritain sut que l'écrivain André Gide allait publier une œuvre qui devait pervertir beaucoup d'esprits. Que fait-il ? Ne pouvant supporter cette perspective, il prend son chapeau et son parapluie et il sonne à la porte de l'auteur pour le supplier de ne pas continuer son entreprise. Habituellement dur et méprisant vis-à-vis des bondieuseries catholiques, André Gide écouta abasourdi cet universitaire célèbre lui parler en toute simplicité du salut de son âme et des prières pour lui, de ses prières pour lui. Cet exemple illustre bien chez Jacques ce qu'un de ses proches dira de lui. Vis-à-vis de tous ceux qu'il rencontrait, il était tout accueil et disponibilité, uniquement préoccupé de ce qu'il pouvait faire pour leur vrai bien, n'hésitant pas pour cela, s'il le fallait, à leur parler sévèrement, mais toujours ouvert à leurs problèmes et leurs difficultés, en s'efforçant de les comprendre tels qu'ils étaient réellement, en tenant compte de leur tempérament, de leur passé, de leur formation, et partant de là pour les faire avancer. Chaque personne avec lui se sentait aimée pour elle-même, ce qui mettait immédiatement en confiance totale. En 1922, Jacques Maritain fait la rencontre de Charles Journet, avec qui il nouera une amitié admirable qui durera plus de 50 ans. Charles Journet était à l'époque un jeune vicaire et théologien du diocèse de Genève. Lui aussi disciple du grand saint Thomas d'Aquin, il avait développé à l'ombre du docteur Angélique un grand désir de contempler la vérité et le zèle pour propager le fruit de sa contemplation. Très discrète et effacée, l'âme contemplative de Journet n'en demeurait pas moins très active. C'est ainsi que sur son agenda, on pouvait noter la prédication de retraite, la direction d'une revue théologique très importante, des cours à l'université et une correspondance avec une foule de personnes. Et dans cette vie trépidante, la prière et tout spécialement l'Eucharistie en demeuraient le centre et le moteur. Petite anecdote, il répondait un jour ceci à quelqu'un sollicitant ses conseils. Il était docteur, il était grand professeur, et il répond « Je n'ai rien à vous expliquer. C'est Jésus qui vous expliquera tout, surtout quand vous aurez été près de lui. » Et Jésus est écrit avec des majuscules. Paul VI estima beaucoup les deux amis. Signe de son admiration pour Jacques Maritain, il lui confia solennellement lors de la clôture du Concile Vatican II une lettre adressée aux intellectuels du monde entier. Quant à Charles Journet, il le nomma cardinal. Petite anecdote toujours, Charles Journet un jour rencontre le pape Paul VI, donc ils se parlent et puis ils se disent au revoir. Le pape, voyant partir le cardinal Journet, dit à son secrétaire « Quel saint homme !» Et dans le couloir, le cardinal Journet disait à son ami « Quelle humilité !» C'est pour montrer un peu l'estime qui liait profondément ces hommes. Et c'est ainsi que, très intimement, le pape livra à Maritain et Journet sa grande inquiétude devant la crise post-conciliaire. Et les mots sont très forts. Ce sont des mots c'est vrai qu'ils ne sont pas des mots d'encyclique, qui sont des mots de discussion entre amis, mais ces mots traduisent bien une angoisse profonde dans le cœur de Paul VI. Et Paul VI écouta les conseils de ses deux amis et leurs avis sur des points épineux. Et ainsi, c'est suite à un avis et au travail de Maritain et Journet que Paul VI promulgua son credo en 1968, acte qui fut dans ces années de troubles une lumière pour de nombreuses âmes. C'est ce qu'on appellera le credo de Paul VI, qui demeure encore une grande référence. Les dernières années de la vie du cardinal et de son ami furent des années de combat pour la vérité de la foi et de la défense du pape. C'est des années de grosse crise de l'Église. Au soir de sa vie, Charles Journet écrivait alors ces lignes. « Nous vivons à des heures où il faudrait, nous, enfants dans l'Église, vivre comme des grands saints. C'est sur nous que repose la responsabilité de sauver le monde de maintenant. Puisse ce désir de Charles Journet, partagé par son ami Jacques Maritain, devenir le nôtre.